When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Colline.
Salut Bart.
Comment vas-tu ?
Bah, très bien, merci. Et toi ?
Écoute, ça va super bien. On est dans un super contexte puisqu'on est au festival La Montagne, ça vous gagne, au Bifort, dans lequel tu retransmets ton film ce soir. Film que j'ai déjà vu, mais là, ça va me faire plaisir de le voir dans les conditions un peu plus cinématographiques, on va dire. Donc, trop bien. Et toi, ce petit séjour parisien, ça te déplaît pas trop ?
Non, c'est très agréable. J'en profite pour voir de la famille, des amis, donc... Puis ça me dépayse un peu.
Je sais que j'ai quelques copains qui sont savoyards et qui ne prennent pas spécialement de plaisir à venir à Paris, même quand c'est du professionnel et tout. Donc si toi tu le vis bien, tout va bien.
Non, ça va.
Je sais que j'ai du mal à les faire descendre de leur montagne, mais c'est très bien. Écoute, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ton travail, à regarder aussi ton évolution. Du coup, dans ton film Recipe, on le dit en anglais ?
Ouais, on le dit en anglais, ouais.
Donc Recipe, recette pour les non-anglophones. J'ai pris beaucoup de plaisir et t'as pris il y a un gros parti pris dans ton film parce que tu as choisi de montrer que des athlètes féminines. Ton groupe d'amis, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Il y a un super travail, un super parti pris. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir en discuter aujourd'hui, ça va être super cool. Mais juste avant ça, je t'ai prévenu, il y a une question traditionnelle sur le podcast qui revient à tous les épisodes, bientôt 200, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ?
Moi, je crois que mon premier souvenir de sport, c'est quand j'étais en primaire dans mon petit village et que j'avais fait du judo. C'était le premier sport que j'avais pratiqué en club. Et je me souviens des soirées au dojo là où notre entraîneur était vraiment chouette, Christian, et il nous enseignait plein de valeurs en plus de la technique sportive. Et ouais, c'est mes premiers souvenirs sportifs, quoi. Ça, les tournois de foot sous le préau à l'école primaire.
Avec une balle en mousse.
C'est ça.
Qu'il fallait pas passer au-dessus du mur parce que sinon le voisin la renvoyait jamais.
Et qui devenait méga lourde quand il pleuvait.
Exactement. Je vois très très bien cette balle en mousse qui se gorge d'eau. Pourquoi le judo ? Comment ça se fait ?
Mais alors, bonne question. Je me souviens pas trop. J'étais dans un petit village. Du coup, c'est possible qu'il y avait pas 40 000 choix au niveau sportif. Et j'avais grave accroché. Je trouvais que c'était vraiment un sport vraiment intéressant. Enfin, après, j'ai pas du tout persévéré dans le judo ou les sports de combat, mais Enfin, en tout cas, notre entraîneur, il nous transmettait aussi des vraies valeurs sportives. Enfin, je me souviens, il y avait un petit encart dans le dojo avec les 13 valeurs principales qui étaient le respect, enfin, pas mal de valeurs humaines aussi. Et ouais, les bons souvenirs de se rouler sur le tatami. Il y avait déjà un côté un petit peu freestyle que je crois que j'aimais un peu, que j'aimais déjà pas mal à l'époque. Mais je me souviens plus exactement pourquoi le judo, en effet.
Ok. Et avec le recul, c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs, je trouve, avec tu vois, le ski, en tout cas acrobatique, ou le fait de faire des figures, parce qu'il y a un rapport au corps, je trouve, et à l'espace qui est quand même assez, assez développé. Tu vois, tu tombes, tu utilises le poids de l'autre, il y a une question d'équilibre aussi. Du coup, j'imagine que tu étais à l'aise dans ce sport ? Tu as eu peut-être des premiers résultats ou des premières bonnes sensations ?
Ouais, je crois que j'étais assez à l'aise. Enfin, je me souviens à l'époque, en plus, encore une fois, c'était souvent contre des garçons et j'arrivais à battre des garçons des fois, donc j'étais contente. Ouais, j'avais ma petite collection de médailles de compétition inter-village, hein, mais j'avais beaucoup aimé. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Et en effet, je me souviens notamment d'une figure où tu roulais vers l'avant, un peu sur le côté, pour parer un peu les chutes. Et ça, c'est vrai qu'il y avait déjà, comme tu dis, une notion de mouvoir son corps dans l'espace. Il y avait des figures où tu passais un petit peu. Enfin, des figures, non, des prises, pardon, où tu passais un peu la tête en bas pour amener l'autre au sol et tout. C'était très technique, c'était pas du tout bourrin, enfin en tout cas pas trop dans mes souvenirs. En effet, je pense qu'on peut faire le rapprochement avec certains aspects du freestyle, c'est une sorte de danse, quoi.
Ouais, d'un côté, ouais, il y a un rapport à l'équilibre, à l'espace qui est assez particulier, ouais. Mais je te dis ça parce que j'en ai fait également, tu vois, 5 ans quand j'étais petit, et mon père était un ancien judoka, donc j'ai pas eu trop le choix. Et c'est vrai que je te rejoins complètement sur les valeurs. C'est un sport dans lequel on t'apprend tout de suite le respect de l'arbitre, de l'adversaire. T'as pas le droit de faire mal en théorie, alors c'est un sport de combat, mais voilà, le but est de faire chuter l'autre et pas de le frapper. Donc c'est vraiment fort en valeur. En tout cas, je trouve que c'est très formateur pour les enfants. Et à quel moment tu te mets à chausser des skis ?
Eh ben, je me mets à chausser des skis toute petite, hein, parce que mon père était originaire de Sallanches, en Haute-Savoie, et du coup, chaque année, on partait en vacances familiales vers Sallanches. On logeait chez mon grand-père, on se faisait une semaine de ski dans les stations autour. Donc toute petite, j'ai chaussé des skis. C'était pas une pratique annuelle pour moi. Enfin, tu vois, on en faisait 10 jours max dans la saison. Mais j'avais déjà le virus, je crois. Enfin, moi, c'est la semaine de ski de l'année. Je l'attendais. 3 mois avant, je pensais qu'à ça déjà, quoi. Donc j'avais déjà le virus. Et après, en arrivant à Grenoble à 17 ans pour mes études, c'est là où j'ai commencé à beaucoup skier et régulièrement et à pouvoir aller dans les stations autour de Grenoble, à faire du freestyle et à m'y mettre, en faire un sport régulier, quoi.
Ouais, ok. Ouais, finalement, t'arrives un petit peu sur le tard comparé à d'autres montagnards et montagnardes, tu vois, qui depuis tout petit sont sur les pistes toute l'année. Et du coup, j'imagine que t'avais quand même déjà un certain talent, tu vois, à 17 ans, tu faisais déjà des sauts, déjà des figures, ou au contraire, c'était peut-être plus sur du ski alpin un peu plus classique. Au moment où justement, il y a ce cap où tu commences à skier beaucoup plus, qu'est-ce que tu faisais ? Quel était ton niveau à peu près ?
Ah ben non, moi, ça a été tout de suite le freestyle. Enfin, je ne me suis pas trop posé la question. Avant ça, j'ai pas mal fait de roller en skatepark. Un peu roller, enfin surtout roller, un petit peu skate. Et du coup, quand j'ai passé à pouvoir faire du ski régulièrement, moi, j'ai... limite, c'est pas que je savais pas que le ski alpin existait, mais enfin tu vois, je voyais vraiment que la composante freestyle, je voyais vraiment amener cette composante freestyle du roller sur des skis. Franchement, j'ai été vraiment on appelle ça un rat de parc dans le milieu. Quand tu penses qu'à faire du parc, il y a plein de stations, j'y passais presque la saison entière et je connaissais même pas les pistes tellement je me ruais sur le snowpark dès que j'arrivais, quoi. Bon, ça a changé, heureusement, parce que quand même. Mais ouais, non, j'ai tout de suite eu cette composante-là dans ma tête de faire des figures, de faire du freestyle.
Et je me pose la question des rôles modèles ou des sources d'inspiration. Comme beaucoup de Français, tu vois, moi je vais au ski 2 semaines par an dans le petit appartement familial, tu vois, aux Arcs. Quand pour une jeune fille, tu vois, quelles sont toi tes sources d'inspiration ? Est-ce que tu vois, il y a déjà des skieuses ou peut-être des hommes qui t'inspirent plus ou sur lesquels tu peux aller chercher des figures ou comment est-ce que ça s'apprend ? Parce que je reviens, je me vois là. 15 ans en arrière, tu vois, il n'y a pas Internet, tu vois, il y a peut-être y a des films, des DVD, sûrement des magazines. Mais comment est-ce que tu vas trouver de l'inspiration ?
Eh ben moi, mes premiers souvenirs de ça, c'était dans le Intersport de Vienne, donc la ville dans laquelle j'ai grandi. Il y avait des DVD l'hiver qui s'appelaient Ski Vibes, je crois. Et c'était des DVD sur le ski freeride freestyle. Et du coup, c'était des DVD gratuits. Et du coup, à chaque fois qu'on allait à Intersport, je prenais un DVD et je regardais comme ça. Donc, en effet, à l'ancienne, quoi, comme tu dis. Et c'est comme ça que j'avais vu mes premières vidéos. Bah, comme je te disais, moi, le ski, j'adorais. Enfin, ça me faisait vraiment rêver, gamine, la montagne et tout. Vu que c'était pas un environnement dans lequel j'évoluais, ça me faisait vraiment rêver. Et du coup, dès que je suis arrivée à Grenoble et que j'ai vu qu'il y avait des possibilités de faire du ski freestyle, j'ai foncé sans trop poser des questions, sans trop avoir d'inspiration, entre guillemets. Et après, je suis allée chercher sur Internet les magazines. En effet, t'achètes des magazines en kiosque, enfin un peu plus à l'ancienne. Puis après, quand même, c'était pas il y a si longtemps que ça. Il y avait quand même déjà YouTube et tout ça. Et je regardais des vidéos de X-Games, tu vois. Je regardais pas mal les X-Games parce que c'était pas évident de trouver des fois des vidéos gratuites en ligne où j'achetais des films. Enfin, ouais, je tapais ski freestyle sur YouTube et je trouvais des trucs, tu vois. Et après, je ponçais ce qui tombait.
À l'époque, qui était les grandes championnes, je me souviens pas, tu vois, côté masculin, tu vois, je pense à forcément un Candide Tovex, tu vois, qui a triomphé très jeune et je pense qu'il a bluffé tout le monde assez jeune, mais je me souviens pas des figures plutôt féminines, tu vois, c'était qui les femmes qui t'inspiraient, toi?
À l'époque, c'était surtout des Canadiennes nord-américaines. Moi, celle qui m'inspirait le plus, c'était Kaya Turski, parce que je trouvais qu'elle c'était une Canadienne et elle avait vraiment du style. Elle faisait du roller aussi, donc je regardais ses vidéos de roller qui étaient impressionnantes. Qui est-ce qu'il y avait d'autres? Great Eliassen, une autre américaine, Sarah Burke, qui est décédée après, malheureusement. Donc, c'est pas mal une bonne communauté. Les stars étaient aux US-Canada, quoi.
Pas encore en France?
Si, en France, il y avait Anaïs Caradeu qui faisait du pipe, qui marchait vraiment bien en pipe. Bah moi, sur mes premières compétitions, tu vois, les Françaises, il y avait Julie Bénard qui est filmeuse et qui filme sur sur Recipe, là, qui a filmé toute l'année avec nous sur Recipe pour la petite histoire. Et si, il y avait. Mais non, mais en France, moi, quand j'ai commencé les compétitions, on était 5 hein, sur les compètes. Je pense qu'on était 5 en France à faire les compètes, quoi. Donc, ça part de loin.
C'est facile, tu vois, de trouver des compétitions, justement, ou de créer un circuit, tu vois. Et j'imagine qu'il y avait sûrement un écart entre les moyens, peut-être, qui étaient mis à disposition pour les mecs et pour les nanas. Bon, ça a beaucoup évolué, je pense, depuis, mais c'était pas spécialement compliqué, du coup.
Non, ça va. Il y avait un circuit de compétition qui s'appelait le SFR Tour. Okay. Et c'était, il y avait 3-4 compètes dans l'hiver. Et en fait, tu t'inscrivais pour 10 euros. Tu avais ton inscription et ton assurance quand tu n'étais pas en club, moi, ce qui était mon cas. Il y avait catégorie filles et gars le même jour. Donc, les catégories filles, il y avait beaucoup moins de monde, mais elles étaient là et on était sur les mêmes journées de compète. Et du coup, non, ça, pour le coup, c'était pas compliqué.
Ok, d'accord.
Non, okay. C'était pas compliqué. J'en parle un peu dans le film, mais la première fois que j'ai participé à une compète, c'est parce qu'on m'avait un peu traîné là-bas en mode « Allez, vas-y, ça va être sympa et tout ». Et en effet, j'avais rencontré plein de monde, l'ambiance était très sympa.
Okay.
Et du coup, c'est un peu comme ça. C'était avant que le sport devienne olympique et qu'il y ait une fédé, des Coupes de France, des Coupes du Monde et tout ça. Tous les compétitions qu'il y avait, c'était soit X Games, vraiment les gros trucs du tour aux US, soit des compétitions privées, toi, des contests, on appelait ça des contests. Trucs genre telle marque organise un circuit de compétition et du coup tu peux t'inscrire. Et...
Donc c'était déjà bien développé en fait finalement.
Quand même, ouais. Tout du côté privé, pas, il n'y avait pas de fédération impliquée, mais quand même, ouais, le ski freestyle était déjà bien en place. Okay.
Et est-ce qu'on pourrait, toi tu t'es spécialisé dans le slopestyle, on parle de ski freestyle, mais tu peux peut-être expliquer la différence. Qu'est-ce qui t'a fait arriver sur cette discipline? Est-ce qu'on pourrait l'expliquer aussi peut-être pour les auditeurs qui sont un tout petit peu moins, on va dire, initiés que toi ou moi, tu vois?
Oui, carrément. Bah, y a un peu trois grandes disciplines dans le ski freestyle. C'est le halfpipe. Donc c'est un demi-tube où tu fais des figures en sortant d'un côté, en ratterrissant dans le même côté, puis tu vas sur l'autre côté et tu fais la même chose. Il y a le big air, donc c'est un saut, le big air. Et le slopestyle, c'est un peu comme un skatepark géant. Tu as un mix de saut et de rail, des barres de fer sur lesquelles il faut faire des figures. Bah moi, le slopestyle, c'est la discipline qui me parlait le plus, que c'est celle que je trouvais la plus complète. C'est celle où c'était le plus facile de s'entraîner. Tu vois, des halfpipes, il y en a peu en France. Et du coup, alors que des snowparks, il y en a dans toutes les petites stations. Chaque petite station a sa barre de rail, son petit saut. Du coup, et c'est, je trouve, ce qui était le plus ludique et le moins... répétitif aussi, enfin genre Selon les compétitions, il n'y a pas un slopestyle qui est pareil. À chaque fois, les rails changent, la forme des sauts. Enfin, il y a toujours plein de choses qui changent. Du coup, c'est vraiment à chaque nouvelle compète, tu répètes ton passage, ton run, on appelle ça. Ouais. Et du coup, d'une compète à l'autre, tu peux complètement changer de run. Enfin, c'est vraiment pas répétitif. Et moi, c'est ce que j'aimais dans le slopestyle.
Ouais, ouais, puis ça dure un peu plus longtemps. Tu as plus de sensations différentes, tu vois, les unes que les autres. Parce qu'effectivement, tu vois, sur peut-être du pipe, c'est toujours un petit peu les... Ça se répète un peu et sur le big air aussi, quoi. Donc, ouais.
Moi, c'est mon point de vue. Après, le pipe, techniquement parlant, c'est encore plus pointu. Enfin, c'est vraiment très, très dur techniquement. Enfin, tu vois, chaque discipline, tu as des belles sensations aussi. Mais ouais, moi, ce que je préférais, c'était le slopestyle.
Okay.
Et le big air aussi. J'aimais bien le big air aussi.
C'est impressionnant, franchement.
Puis quand tu fais du slopestyle, en général, tu fais du big air. Parce que,
ouais, tu as appris à sauter.
Vu qu'il y a plusieurs sauts dans un slopestyle, normalement, le big air, c'est un peu plus. Pas facile, mais parce qu'il faut présenter des figures plus compliquées, du coup, pour espérer gagner une compète. Mais tu as un saut sur lequel te concentrer et pas trois plus trois rails. Ouais.
Mais je te demande un petit conseil, peut-être pour moi. Alors, c'est pas forcément. C'est plus trop d'actualité, mais je voulais te poser ta question, tu vois, de ton rapport à la chute et à la blessure. Moi, je faisais beaucoup de snow, beaucoup de ski, mais j'ai jamais été très casse-cou. Donc, j'ai jamais tenté des trucs de dingue, tu vois, sur un parc. J'ai replaqué une fois un 540 et c'est tout. Et la deuxième fois, je me suis bûché, mais comme jamais. Et, j'ai été traumatisé, j'ai jamais recommencé. Donc, le backflip, je t'en parle même pas. Comment est-ce que toi, t'as passé cette appréhension-là ? Est-ce que plus jeune, t'étais déjà assez casse-cou ? T'avais pas peur de la chute ? Parce que tu peux te faire hyper mal. Moi, je suis toujours impressionné, en fait, de tous ces skieurs, tous ces freestylers, en fait, qui font des figures de dingue. Comment ils font pour passer, en fait, cette appréhension de la chute et de l'échec, tu vois ? Qui peut être grave, tu vois.
Oui, bah c'est clair que ça fait partie de notre sport. Moi, tu me demandais, je pense que j'étais un petit peu casse-cou à la base quand même, parce que je me souviens, limite, mes pires boîtes, je les ai prises dans le skatepark avant de commencer le ski. Enfin, tu vois, je sais que déjà à l'époque, l'envie de réussir telle ou telle figure était plus forte que la peur ou la douleur quand tu t'étais crashé sur le goudron et que tu t'étais fait mal. Enfin, genre, c'est pas des trucs que tu souhaites. Hein, avant une session, tu te dis, bon, je vais essayer de pas me faire mal, machin. Avant chaque figure, tu essaies de bien te concentrer pour éviter de tomber. Ouais, la motivation de progresser dans ces sports-là a toujours été plus forte que la peur. Mais il y a de la peur. Hein, on a peur. Hein. Enfin, je me souviens de mon premier backflip, j'étais terrorisée. Il y a plein de tricks comme ça dont je me souviens où vraiment, j'avais vraiment très peur. Et du coup, quand tu arrives à le faire, ben, c'est encore plus... la récompense, elle est encore plus grande, quoi.
Ouais. Et comment est-ce que tu t'entraînes ou comment est-ce que tu te prépares à passer justement ce premier backflip ? Tu le fais sur un matelas gonflable et tu le fais plusieurs fois jusqu'à temps de le replaquer. Tu te dis, allez, tiens, j'y vais, je le tente. Je te demande ça parce que notamment, j'avais eu une conversation avec Antoine Adlis qui m'avait dit, tu vois, dans l'interview... En compète, il tente toujours une figure qu'il a jamais plaquée ou qu'il a jamais tentée. Enfin, où ça lui arrive très souvent. Et quand il a gagné les X Games, c'était le cas. Il fait une figure qu'il a jamais replaquée à l'entraînement. Et je trouve ça dingue, quoi, de te dire le jour J, tu tentes quelque chose de complètement nouveau que t'as jamais passé. Ça m'impressionne vachement. Et du coup, je me demande comment le passer la première fois quand. Effectivement, il y a un risque.
Après, je pense pour le cas d'Antoine, c'est qu'il a atteint tel niveau que lui changer. Quelque chose qui va être nouveau, ok, dans une figure, c'est ultra impressionnant, mais c'est à sa portée, entre guillemets. Enfin, tu vois, c'est pas ouais. Fait en mode j'ai une chance sur 10 que ça arrive. Ouais. C'est ce qu'il fait.
C'est ce qu'il transcende aussi, tu vois.
Oui, c'est ça, sûrement, ouais. Moi, j'ai appris un peu plus à l'ancienne. Enfin, quand j'ai appris, il n'y avait pas trop d'airbag et tout ça. Du coup, tu vois, mon premier backflip, c'était en skatepark et on était allé chercher un vieux matelas à Emmaüs avec les copains du skatepark. On l'avait mis, tu vois, on ratterrissait sur le matelas. Enfin bon, tu vois, c'était complètement à l'arrache. Et mon premier backflip sur les skis, c'était aux Deux Alpes. Et le premier, j'avais planté les deux spatules et je m'étais explosée par terre. Et le deuxième, bah, du coup, ça avait marché parce que j'avais dit, ah, j'ai pas tourné assez, je vais tourner plus. Enfin, tu vois, genre, pas mal de trucs que t'apprends quand même comme ça.
Ouais, la première fois, t'es obligé de passer par là, quoi.
Parce que c'était une autre époque aussi, quoi. Là, je pense qu'en effet, les jeunes, ils font beaucoup plus de trempos, ils font de l'airbag, en effet, où tu atterris sur ce gros coussin gonflable là et ça te permet d'essayer plein de figures sans te faire mal. T'as un risque aussi, hein. C'est pas doux non plus, mais en te faisant moins mal que si tu te craches sur la neige, quoi. T'apprends à tomber aussi, ça c'est important. Enfin, on apprend à tomber, tu vois, parce qu'évidemment, on fait pas du tout toujours tout parfait. Et quand tu fais un truc, tu as une sorte de conscience du airtime, on appelle ça, qui se développe. Et en l'air, tu sais de plus en plus où t'es, tu sais de plus en plus quoi faire s'il y a un truc qui se passe pas bien, comment te rattraper. Même en cas de chute, tu sais de plus en plus comment rouler pour pas te faire mal, comment juste laisser aller quand il faut laisser aller. Enfin, tu vois, tu apprends un petit peu à tomber, ça c'est clair.
Ok, avec l'expérience, quoi, ça vient.
Ouais, oui.
Plus jeune, t'étais une jeune fille un peu casse-cou ou pas du tout?
Ouais, si, je pense pas.
T'as des grands frères, des grandes sœurs?
Non, j'ai une petite sœur.
Ok, d'accord. Je me demandais ça parce que ça me faisait penser à une autre athlète qui disait qu'elle était très casse-cou à cause de ses grands frères qui lui menaient la vie dure. T'as des exemples pour illustrer ce côté pas peur de la chute, un peu casse-cou et...
Des exemples, bah, j'en ai pas mal. Je sais pas, mais encore une fois, je reviens aux années skatepark. Une fois, j'étais allée faire du roller et j'avais cours après. Je crois que c'était entre midi et deux. Et je m'étais boitée sur l'épaule. Alors, j'avais l'épaule en sang, machin. Et du coup, j'avais débarqué en cours avec le t-shirt arraché, l'épaule en sang. La prof qui s'était dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je lui ai dit, non, j'étais juste au skatepark. Il n'y a pas de problème. Enfin, et c'était normal, parce que c'est toute une culture aussi où moi, je me souviens de... T'apprends à pas trop en faire des tonnes pour des petits bobos. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu. Genre, ouais. T'apprends aussi à gérer ça. Et sinon, je sais pas. Bah, moi, la quintessence du casse-cou dans ma carrière, je pense que c'est le ski street.
Ouais.
Ça, c'est vraiment. Tu passes ton temps à te boiter. Enfin, tu passes beaucoup de. Enfin, les sessions street, c'est quand même pas mal de chutes pour un shot réussi à la fin, de manière générale. Hein, pas tout le temps, mais quand même. Pour moi, c'est un peu le. Bon, si t'as pas envie de tomber, tu peux pas trop faire du street, quoi. Ouais. Et toi, d'ailleurs, je n'ai plus envie d'en faire à cause de ça. Mais on vieillit quand même. En street, bah, j'ai plein d'anecdotes. Enfin, je pense que chaque spot est un exemple, est une illustration de ça. Sur chaque spot, il y a des boîtes et des boîtes. Et à un moment, paf, ça passe. Et du coup, t'as le shot et t'arrêtes tout, en général. Du coup, tu plies tout, tu t'en vas, t'es content. Tu t'en remets pas une couche, quoi. Oui.
Mais on le voit un petit peu dans Recipe, parce que vous faites une scène justement où il y a un mur, un espèce de mur orange, et vous vous amusez pas mal dessus. Et c'est vrai que alors c'est moins impressionnant que forcément sur un gros saut ou sur un gros big air où effectivement là tu montes quelques boîtes et là c'est impressionnant, on a mal pour vous en le regardant, mais là on voit tomber dans la rivière et dans les cailloux, vous prendre le mur ou tomber sur la barrière aussi directement. Et on sent que c'est moins impressionnant visuellement, mais on sent que ça fait bien mal quand même.
Ouais, le street, c'est particulier, ouais, mais ouais.
Et c'est un parti pris, justement, dans le film, d'avoir montré autant de chutes, tu vois. Alors, j'ai pas compté, tu vois, mais dans mes souvenirs, je dirais que c'est peut-être 25%, tu vois, des sauts qu'on voit qui se terminent pas toujours très bien. Pourquoi t'as fait ce choix-là? Parce que tu vois, dans les gros film que j'ai pu voir, tu vois, le premier qui me vient en tête, c'est The Art of Flight, tu vois, c'était peut-être le premier film de snowboard qui m'en a mis plein les yeux. Il n'y a aucune chute, quasiment. Là, pourquoi tu as fait ce choix-là, artistiquement?
Ben, je pense que c'est pour deux raisons principales. La première, c'est que dans une des interviews, dans un des portraits, ben, la mienne, on parle pas mal du risque de blessure, de la chute. Et du coup, ben, pour illustrer ça, on a mis pas mal de chutes. Donc c'est peut-être ça où, en effet, à un moment, il y en a pas mal d'affilée. La deuxième raison, c'est que, ben, du coup, oui, en effet, les productions où tu vois que des shots réussis, c'est méga impressionnant, on en prend plein les yeux. Mais des fois, même quand tu sais le boulot qu'il y a derrière, ça te fait occulter un peu cette partie-là parce que tu te dis, mais ça a l'air facile. Alors, c'est le but, hein, de rendre ce que tu fais un peu assez relâché et facile. Mais du coup, des fois, quand tu le regardes, tu te dis, mais en fait, bon, pour eux, c'est facile et tu vois pas tout le processus qu'il y a derrière, soit de préparation, soit de chute, hein, tout simplement. Des fois où il faut vraiment réessayer, y retourner. Et moi, dans l'objectif un peu d'aller plus en profondeur que juste l'action dans ce film-là, je me disais que ça fait partie intégrante quand même de ce qu'on fait, de la gestion de nos journées, de la gestion de nos sessions. Tu vois, quand tu te prends beaucoup de boîtes, bah, des fois, tu dois décider d'arrêter. Du coup, bah, tu repars bredouille. Quand tu t'en prends pas, bah, c'est génial. Mais enfin, tu vois, ça fait quand même partie du truc. Et du coup, c'était un peu pour illustrer ça et pas donner l'impression que tout est facile et tout est premier coup, quoi. Parce que c'est loin d'être le cas.
Bah, tu vois, j'ai regardé le film avec une amie qui skie pas mal, qui est un peu casse-cou aussi. Son avis, elle me disait, tiens, c'est marrant parce que ça peut faire peur. Elle s'est dit, là, ouais, elle monte quand même des grosses boîtes, des grosses chutes par moment. Et elle se dit, ouais, si j'avais vu ça à 15 ans, peut-être que ça m'aurait peut-être un peu ralenti ou pas. T'as déjà eu ce retour-là ?
Non, mais en effet, j'espère que, en tout cas, c'est pas le but du tout. C'est pas le but, et ni non plus de faire un truc sensationnel. C'est plus, moi, la démarche, c'était plus que ça fait partie du truc. Ça fait partie de notre sport, ça fait partie d'un truc qu'on doit gérer mentalement. Donc non, bah j'espère que ça donne pas cette impression-là. Et aussi, je tiens à préciser, personne n'a été blessé pendant le... Il n'y a eu pas de blessure. Il y a des chutes, des fois, qui sont très impressionnantes et physiquement, c'est pas les pires. Enfin, tu vois, genre... voilà, notamment en backcountry, bon bah... La neige est molle, enfin, des fois tu prends plusieurs au bas, enfin un roulé-boulé. Bon, tu te relèves de ça, t'as perdu ton masque et tes gants, mais c'est pas grave. Enfin, tu vois, physiquement parlant, il y a des chutes très impressionnantes qui n'ont pas trop de conséquences physiques. Quoi.
Ok, bah, hyper intéressant. J'étais curieux d'avoir ton avis sur la question. Effectivement, tu vois, t'as voulu montrer un petit peu l'envers du décor aussi, au-delà des chutes, peut-être sur les témoignages, tu vois, justement, de parler un peu du rapport à la compétition, du rapport à ce sport, le côté un peu aussi girl crew, tu vois, où on vous voit pas mal ensemble et discuter ensemble et vivre un peu cette vie-là. D'où t'es venue en fait cette envie de montrer pas que du ski et de montrer aussi les petits à côté dont on se doute pas forcément quand on vient pas de ce milieu-là.
Bah, moi, c'était presque une idée fondatrice de ce film au-delà de l'action. Parce que moi, c'est un aspect qui m'intéresse de plus en plus, le côté humain, le côté raconter des histoires. Donc tu vois, au début, je voulais faire des portraits quoi qu'il arrive, mais je savais pas si on parlait plus de sujets liés au ski ou si la personne interviewée décidait un peu de ces sujets. Au final, j'ai décidé de parler d'un peu de sujets liés à une vie de skieuse professionnelle, à notre pratique sur les skis et tout. Oui, c'est une partie qui m'intéresse de plus en plus, moi, d'aller au-delà de la performance et de montrer un peu ce qu'il y a derrière, ou peut-être dans le futur d'aller essayer de faire des films sur des sujets qui sont mêlés avec le ski, enfin tu vois, de sortir de la performance pure. Voilà, nous sur les skis, on fait ce qu'on sait faire, on essaye de donner le maximum, mais dans un film, j'ai envie de raconter de plus en plus autre chose que juste ça, quoi. Que la performance, elle soit dans les parties action, et qu'à côté de ça, il y a autre chose quand même, et... peut raconter un peu des histoires, ouais.
C'est quelque chose peut-être qui te manquait un peu sur le circuit de compétition que tu pratiquais avant, de les petits à côté de la compète, les petits moments. Je sais que tu dis à un moment que tu vois plein de filles sur le circuit, mais finalement tu peux pas trop les rencontrer parce qu'elles sont dans des équipes différentes, parce que vous avez toutes des programmes hyper chargés et que vous avez pas toujours l'occasion de vous recroiser ou d'échanger ensemble. C'était aussi une partie qui te manquait peut-être avant, ou sur le circuit de compétition plus conventionnel, classique ?
Eh ben, c'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. En effet, sur le circuit de compétition, là, y a que la performance qui compte. Enfin, le côté artistique, le côté raconter des histoires et tout, c'est pas présent. C'est pas pour ça que tu fais de la compète. Hein. Enfin, je veux dire, c'est assumé aussi, mais en effet, c'est un côté qui est peu présent. Et pour ce qui est des rencontres avec des filles ou des gars d'autres nations, eh ben oui, c'est quand même compliqué. Enfin, genre, du coup, en compétition, moi, j'étais en équipe de France et du coup, on voyageait tous ensemble. Alors là, par contre, c'est aussi génial. Hein. C'est une petite famille. Du coup, t'es avec une dizaine de personnes toute la saison. Tu te supportes. Il y a beaucoup d'entraide au sein de cette équipe-là.
Mais on le voit pas. Le téléspectateur le voit pas, quoi.
Non, carrément. Mais nous, pour le coup, il y avait vraiment une bonne ambiance dans l'équipe. Et bah, c'est ça qui te porte aussi. Hein. Enfin, c'est des années, c'est des saisons très intenses, beaucoup de voyages, beaucoup de... un petit peu quand même de pression. Enfin, tu vois, tu sautes d'une Coupe du Monde à une autre Coupe du Monde. T'as à peine digéré qu'il faut déjà repartir dans les entraînements de la compétition d'après. Et du coup... d'avoir une team solide autour, des personnes qui vivent la même chose, où tu peux échanger et tout, c'est très important. Ouais. Mais oui, t'es dans ta bulle, quoi. Enfin, t'es dans ta bulle et c'est pas évident d'en sortir. Et il n'y a pas forcément le temps le soir d'aller boire un verre avec des personnes d'autres nations. Et, donc oui, à la fin, c'est un truc qui me manquait, en effet. Enfin, ou qui me dérangeait d'être autant dans une bulle. Et j'avais envie de voir autre chose aussi, ouais.
Parce que ouais, c'est un passage qui m'a beaucoup marqué dans ton film, je te le disais. Dans ton témoignage, tu évoques le fait que tu n'étais pas forcément à l'aise en compétition. Tu te définis même comme pas très compétitrice. Comment tu te sentais ? Comment est-ce que tu l'as senti, justement, cette émotion un peu négative, peut-être de ne pas être à ta place ? Tu utilises aussi ces mots... Dans le témoignage, comment est-ce que ça s'est retranscrit ? Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là ?
Eh ben, je pense que les années compètes, je les ressentais. j'essayais de me convaincre que j'étais à ma place, justement. Tu vois, je me suis vraiment prise au jeu quand même. Quelques années, 3-4 années, je me suis vraiment prise au jeu. J'avais envie de faire des résultats, j'avais envie de progresser.
J'en
ai eu quelques-uns, ouais. J'avais vraiment envie de progresser et tout. Mais je sentais qu'il fallait quand même que je sorte de ma zone mentale, enfin, que j'étais. Ouais, je suis pas compétitrice dans l'âme. J'aime progresser et me dépasser, mais pas en compète. Et du coup, il y a beaucoup de compètes où ça marchait pas, parce que je skiais bien les entraînements, et après, je skiais très mal la compète. Enfin, tu vois, je pense que j'ai pas l'esprit qui colle en compète. Enfin, genre, j'ai pas le.
Ça veut dire quoi, ne pas avoir l'esprit qui colle en compète?
Ouais, mais je connaissais des personnes dans mon entourage qui se surpassent. Tu vois, notamment, t'as parlé d'Antoine. Je pense qu'Antoine, il fait partie de ces gens-là qui arrivent à se surpasser en compétition, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à utiliser le fait d'avoir une échéance pour faire quelque chose de bien, de mieux que ce que tu ferais au quotidien. Moi, c'était plutôt l'inverse. Je skiais souvent beaucoup mieux sur un entraînement banal ou quand j'avais une caméra qui me suivait qu'en compète. Et du coup, ça, pour moi, c'est quand même un signe aussi. Le fait que ouais, j'ai mis très longtemps à trouver mon mode mental qui marchait en compète. Et ce mode-là, c'était n'en avoir rien à foutre. Se dire, ça, en fait, cette journée, je m'en fiche. C'est une journée entre potes. Et ça, moi, c'était ce qui m'a. Mes résultats, je les ai faits quand j'avais ce mode-là. Et tu vois, ça aussi, je trouve que. Après coup, je l'analysais pas autant quand j'étais dedans,
oui,
mais, après,
sûr,
coup,
mais...
après coup, je me dis, oui, c'est quand même bon, un peu tout ça. Et le fait que dans ma tête, j'avais toujours l'idée de faire la vidéo et presque je considérais la compétition comme un tremplin vers cette future potentielle nouvelle carrière, parce que je savais pas que ça allait pouvoir être possible un jour, mais je me disais un peu, allez, tu donnes tout dans la compète, comme ça t'auras un petit peu une légitimité, un petit nom, et après peut-être ça facilitera la transition vers la vidéo, quoi.
Okay.
Je voyais un peu comme ça.
Pourquoi c'est impossible de faire les deux, tu vois, d'être à la fois sur effectivement un circuit de Coupe du Monde avec beaucoup de voyages et en même temps l'incapacité de pouvoir réaliser des films?
Eh ben, alors c'est que mon point de vue, hein, mais pour moi c'est pas impossible de faire les deux, mais c'est compliqué voire impossible de faire les deux bien. À chaque fois que j'étais en année compète et que j'essayais de faire des projets vidéo, tu calais les projets sur des plages de temps d'une semaine que t'avais entre deux compètes, t'étais crevé, les conditions n'étaient pas forcément là, tu faisais tout dans le rush, t'avais pas le temps d'aller à fond dans tes projets, t'avais pas le temps de faire les choses bien, à mon avis. Hein. Et il y a des gens qui arrivent, ça m'impressionne énormément, ceux qui arrivent à faire des projets chiadés, quoi, enfin intéressants et à faire des saisons de compètes. Moi, j'y arrivais pas. Enfin, j'avais besoin de soit être à fond dans mes compètes et soit être à fond, ou en tout cas, ça me frustrait. Ça me frustrait parce que j'avais l'impression de pas faire les choses bien. Je préfère de beaucoup me focus à fond sur les projets vidéo et tout simplement parce qu'une année de compète, en fait, ça prend énormément de temps. Enfin, toi, comme on disait un peu tout à l'heure, c'est beaucoup de voyages, c'est une semaine, une compétition, c'est une semaine à peu près. T'as deux jours d'entraînement, un jour de qualification, un jour de finale. Et des fois, des jours de météo, des jours de réserve météo si jamais la météo est mauvaise. Donc c'est vite une semaine. Tu rajoutes à ça deux, trois jours de voyage pour y aller, pour repartir. Enfin, tu vois, c'est vite des grosses semaines qui s'enchaînent. Et quand t'as deux, trois jours de libre, bon, bah, tu te reposes quand même parce que c'est fatigant. Et du coup, il y a peu de temps laissé à autre chose.
Ok, ouais, je comprends mieux. D'ailleurs, c'est souvent scindé, hein, on le voit dans les carrières, effectivement, de skieur ou de snowboarder. Il y a souvent un temps pour l'un et un temps pour l'autre, quoi. T'as tout de suite su que tu voulais aller, être plus que l'athlète qu'on va justement filmer et suivre. T'as fait le pas d'aller dans la réalisation, dans l'écriture aussi. Je suis très curieux de savoir un peu quel est le processus, comment ça se crée ce genre de projet. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le cap, d'aller un peu plus loin que, on va dire, c'est pas du tout réducteur, hein, mais d'être la simple athlète qu'on va suivre et qu'on va filmer, quoi.
Bah ça aussi, ça s'est fait assez naturellement parce que en arrêtant la compétition, j'avais pas forcément de grosses opportunités film qui se présentaient à moi. Du coup, si j'avais pas créé mon propre projet, tu vois, je sais pas comment ça se serait lancé, ma transition dans la vidéo, mais ouais. Tu vois, j'avais peu de légitimité là-dedans. Quand tu fais de la vidéo, tu fais un peu du freeride, du backcountry, qui sont d'autres disciplines, plus en montagne, du hors-piste. J'avais pas trop d'expérience ni de légitimité là-dedans. Du coup, ça m'a paru naturel de créer mon propre projet, aussi parce qu'il y avait peu de projets féminins. Et du coup, j'avais envie de créer une sorte de plateforme qui permettait de filmer avec des skieuses que j'avais rencontrées en compétition ou ailleurs et avec qui j'avais envie de faire un projet. Peut-être un mix entre... je trouve le processus très intéressant aussi. J'aime beaucoup écrire des projets et mettre un peu ta patte derrière quelque chose, faire... mettre tes idées, que tes idées puissent trouver une certaine réalité, quoi. Donc ouais, un petit mix, tout ça, ça m'a paru encore une fois assez naturel. Enfin, dès que j'ai arrêté la compète, je me suis dit, bon, ok, quel projet tu fais, quoi. Enfin, tu vois, je me suis le plus dit comme ça et rapidement, ça a été un projet féminin que j'ai eu en tête avec Skivas, là, il y a trois ans. Ouais, ça s'est fait un peu comme ça.
Ok. Et tu pourrais me dire, du coup, m'expliquer un petit peu, si tu devais me donner un cours, imaginons, pour que j'apprenne à réaliser un film d'aventure ou en tout cas de outdoor. Un peu dans les grandes étapes, je vois effectivement le financement. Et à quel moment tu le fais ? Est-ce que tu le fais complètement en amont ? Ou est-ce que tu commences à écrire justement pour proposer quelque chose ? Je suis très curieuse aussi de savoir comment est-ce que tu gères le fait que tu ne maîtrises pas encore ce qui va se dire par les athlètes ou les figures qui vont être réalisées. Comment est-ce que vous choisissez les spots aussi ? Comment est-ce que tu choisis un peu le calendrier ? Je suis très curieux de savoir comment ça s'organise ? Comment est-ce qu'on crée un film de genre, tu vois ?
Oui, carrément. La première étape, c'est quand même l'écriture. Enfin, moi, j'essaie de commencer ça pour avoir quelque chose à proposer quand tu vas rechercher des financements, pouvoir quand même dire ce qu'il va y avoir derrière ton...
Ready to pop the question ? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
L'idée, quand est-ce que ça va être filmé, avec qui un peu, même si tout n'est pas en place, il y a beaucoup d'ajustements qui se font plus tard, mais quand même, ça part quand même par écrire les idées qui ont germé dans ta tête avant, quoi. Après, en effet, recherche de budget, recherche de financement auprès des sponsors et tout ça, donc ça, en général, ça se fait en mai-juin, enfin, tu vois, vraiment au début de l'été. Après, une fois que tu as une idée un peu plus claire du financement, tu peux aller contacter des boîtes de production, les filmeurs, filmeuses qui vont potentiellement bosser avec toi, demander à un tel s'ils sont dispo, s'ils sont dispo, après discuter les tarifs, enfin tout ça. Contacter les...
Parce que du coup, pour le financement, tu as déjà tout budgétisé, tu as déjà demandé des devis, tu vois, pour différentes missions, ou tu le fais après ? Enfin, tu as une enveloppe et tu te débrouilles avec ça.
T'estimes les coûts à l'avance. Après, tu vas voir les sponsors qui te donnent en fonction de ce qu'ils ont et ce qu'ils sont prêts à mettre dans le projet. Toi, après, tu as une enveloppe et après, tu vas voir la boîte de production avec cette enveloppe-là et avec une proposition de prix. Et eux, évidemment, ils font des devis derrière et on voit si ça match. Mais ou on ajuste le nombre de journées de tournage s'il n'y a pas assez de budget ou tu vois, des choses comme ça. Ou souvent, sur des projets d'une saison aussi... tu fais un peu des packages, enfin tu vois, genre on avait fait comme ça en tout cas avec les boîtes de prod avec qui on avait bossé, la Blue Max Media, où ils nous avaient fait une sorte de package sur la saison où c'était un petit peu moins cher du coup qu'une journée de tournage, enfin additionnée quoi, parce que c'est beaucoup de journées de tournage, ouais, donc c'est des gros budgets production, donc ouais, ça c'est pour la partie budget. Après il y a toute la partie logistique sur neige, organisée avec les plannings des autres skieuses, où est-ce qu'on va, quand, météo, logistique, appart, forfait, enfin tu vois, des trucs un peu classiques.
C'est toi qui gères tout ?
Non, il y a un producteur aussi, moi je gère le côté avec les filles, et il y a un producteur Raph Regazzoni qui gérait aussi la logistique avec les stations, tout ce qui était budget, contact sponsor et tout, c'est tout lui qui a géré. Du pas solo, heureusement, enfin c'est une aide énorme, mais c'est un gros boulot, c'est presque un boulot à part entière sur le film, en dehors de toute la partie réalisation, la partie production est énorme aussi. Et c'est souvent des parties qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais c'est du gros, gros boulot.
Ouais, et puis tu l'as mentionné, il y a une quarantaine de jours de tournage sur Recipe. Vous ne faites pas tout en France. Vous avez un petit peu voyagé. Comment est-ce que tu choisis les spots pour être dans le contexte de justement la skieuse que tu rencontres ? Est-ce que c'est un coup de cœur en commun sur une montagne que vous, au contraire, vous n'avez jamais fait. Comment est-ce que tu choisis ?
Eh bien là, c'était plus ta première option. C'était plus, tu vois, par exemple, on est allé 3 semaines aux États-Unis à Salt Lake parce que Taylor, une des skieuses du film, habite là-bas et a pu nous accueillir chez elle. On a fait toute la partie street chez elle puisqu'elle connaissait les spots autour. Ça simplifie souvent la logistique quand même d'aller dans des endroits où, qui sont des résidences des skieuses parce qu'au niveau logement et puis au niveau connaissance, enfin, quand tu débarques dans un endroit et que tu n'as aucune connaissance du lieu en ski, tu prends souvent, il faut souvent minimum 2-3 jours pour capter le lieu, capter l'endroit. Et du coup, quand tu n'as qu'une semaine, ça peut vite prendre sur le temps de shooting, quoi. Du coup, on a privilégié ça. Et après, pour tout ce qui est tout le reste, on l'a fait dans les Alpes. Et là, pareil, on est beaucoup allé à Rosières parce qu'on avait déjà filmé là-bas pour Skiva. C'est une station qui nous accueille toujours à bras ouverts. Et les montagnes sont magnifiques. Et pareil, on commence à connaître un peu. Donc, c'est un peu plus facile. On est allé aux Arcs parce que Chloé, une des rideuses du film, était de là-bas, connaissait tout par cœur. Et du coup, pareil, ça rend les shootings mais tellement plus efficaces, quoi. Ça n'a vraiment rien à voir. Et du coup, moi, j'aime bien privilégier ça. Après, si on venait toutes du même endroit, je pense qu'on voudrait varier un peu. Enfin, tu vois, c'est un mix aussi. Et une fois qu'on aura épuisé tous les endroits qu'on connaît, il faut varier. Enfin, tu vois, mais là, pour ce qu'on voulait faire, où c'était pas tant les endroits où on filmait qui étaient importants, plus ce qu'on faisait sur les skis et les portraits derrière les interviews, ça allait très bien. Ça simplifiait la logistique. C'était, ça allait très bien.
Ok. Je ne t'ai pas posé la question, mais tu vas choisir de tourner qu'avec des nanas. C'est quand même une prise de position, tu vois, un message que tu veux faire passer. C'est quoi ce message et qu'est-ce que ça veut dire sur toi ?
Que je suis un peu féministe. Non, le message, il y en a plein. Enfin, le message, c'est, ça peut être un message aux jeunes filles, de leur dire que les sports un peu extrêmes ne sont pas réservés aux hommes s'il y a une envie de faire ce genre de sport. Ça peut être un message à l'industrie du ski pour leur dire que de vraiment faire la place belle aux femmes parce qu'elles le méritent, ce qu'elles font sur les skis et parce que y a encore une sous-représentation quand même dans les films de ski et d'aventure et de montagne en général des femmes. Ça peut être il y a plein de messages, enfin ouais, de juste une volonté d'être ensemble, d'être skier ensemble, parce que il y a vraiment une sorte de une vraie complicité qui se crée assez vite en montagne entre femmes, et il y a plein de raisons derrière ça, mais c'est vrai que moi la première raison, c'était quand même d'augmenter la représentation des femmes dans le milieu de la vidéo et dans les films de ski.
Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et comment est-ce que tu les as choisis ?
Eh ben ça dépend. Il y en a que j'avais rencontré sur les compétitions, donc notamment Taylor, Sarah qui filme avec nous là en backcountry. Il y en a que j'ai rencontré en arrêtant la compétition, plus en commençant à filmer en faisant du freeride. Donc Juliette Willman par exemple, avec qui j'ai beaucoup appris. J'ai appris plein de choses en freeride avec elle. Chloé, enfin beaucoup de personnes. Il y a des personnes que je connaissais pas. Par exemple, la Manon, je la connaissais pas. On me l'a recommandé. C'est Raphaël, le producteur, qui m'a dit « Ah, mais cette petite jeune là, elle déchire. Tu devrais lui proposer de filmer. » Et en effet, ça a pas loupé. Elle a vraiment une super part dans le film et elle skie vraiment trop trop bien. Donc Manon, je la connaissais très peu avant qu'on filme ensemble. Michelle, là dans le film, une américaine, je la connaissais pas avant qu'on filme ensemble. Je lui ai proposé par Instagram de venir filmer avec nous et elle m'a répondu, elle est venue. Donc on s'est rencontrés à la gare de Grenoble, quoi. Et puis elle a passé une vingtaine de jours en France où on a filmé pour le film. Donc, toi, c'est vraiment un mix entre des personnes avec qui j'avais déjà bossé, passé du temps, qui sont des amis, et des nouvelles personnes, et des personnes que tu vois pas si souvent, mais que du coup, quand tu filmes une dizaine de jours, il y a des affinités qui se créent.
Ok.
Le dénominateur commun, c'est quand même des skieuses dont j'aime la façon de skier et où humainement je me disais que ça allait pouvoir le faire sur un tournage, quoi.
Et elles sont engagées aussi ? Tu te définis tout de suite comme je suis un peu féministe. Est-ce que elles se définissent aussi comme féministes ? C'était quelque chose d'important pour toi ?
Non, pas toutes. C'était pas important pour moi et pas toutes. Je pense que vraiment il y a pas toutes qui se définissent comme féministes. Il y en a, oui. Il y en a qui sont, comment dire, pas indifférents. Si, je pense qu'il y en a qui sont indifférentes, enfin qui, en tout cas, pour moi, c'est aussi une forme de féminisme, c'est de faire par les actes. Enfin, tu vois, il y en a pas mal des filles du film qui, je pense, réfléchissent pas tant au sujet, mais par ce qu'elles font sur les skis, par leur manière d'agir et tout ça, c'est presque du féminisme aussi, parce que ça va à l'encontre de pas mal de stéréotypes genrés, ça va à l'encontre de cases dans lesquelles on voudrait laisser les femmes, et du coup, mais qui ne se revendiquent pas du tout telles quelles. Enfin, tu vois, en effet, on a des fois cette conversation et il y en a qui disent bon, pff, non, c'est pas mon truc, je fais mon truc, quoi, laissez-moi faire mon truc, entre guillemets, en dehors de tout débat politique. Il y en a qui le sont plus. Il y en a qui le sont plus et avec qui c'est assumé. Donc non, ça c'est pas un critère. C'était pas un critère.
Ouais, je te rejoins totalement sur le fait d'être engagé par les actes, tu vois, plutôt que par la philosophie ou la réflexion. Le simple fait de suivre sa voie et de pas écouter trop les carcans de la société, c'est déjà un positionnement assez fort, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au féminisme ? Il y a eu un élément déclencheur, un livre, des lectures, des rencontres
C'est une bonne question. Je pense que ça a toujours été un peu... J'ai toujours été un peu sensible aux injustices de manière générale. Et je trouve que la situation entre hommes-femmes est une injustice. Enfin, pour moi, à plein de niveaux, hein, même si ça va de mieux en mieux et tout ça. Mais il reste quand même des injustices. Et du coup, moi, ça, en tant que femme qui aime en plus des choses qui ne sont pas forcément dans ce qu'on veut te faire en tant que petite fille, ça, en fait, le féminisme, pour moi, c'est une évidence. Enfin, tu vois, genre, en tout cas, si être féministe, c'est de se battre contre des stéréotypes, c'est de sortir du modèle des femmes qui sont dans des activités un peu douces et tout ça. Moi, j'ai toujours été par essence, entre guillemets. Et du coup, après, de voir... Enfin, bah, je côtoie des personnes, pour le coup, qui sont plus féministes militantes et militants. Et là, du coup, ça te fait développer une certaine réflexion plus poussée autour de tout ça. Parce que, tu vois, moi, mes premières idées féministes, c'est un peu sans trop de réflexion, tu vois. C'est comme... Et après, tu vois qu'il y a des vraies réflexions à développer encore plus. Donc là, je suis loin d'être la plus au point, mais j'y travaille. Notamment ma sœur. Ma sœur m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Enfin, tu vois, genre, qui est pas mal dans les milieux féministes à Paris. Et en effet, c'est des discussions, des lectures. Et c'est assez récent que je conscientise le fait presque d'être féministe. Tu vois, avant, je pense que j'étais comme ce dont on parlait avant, plus je fais mon truc, moi. Enfin, genre, il se trouve que c'est un petit peu féministe parce que ça sort des clichés et tout ça. Mais je le faisais avant tout parce que pour moi, c'était évident, logique, ça me passionnait. Enfin, tu vois, genre, sans trop le politiser, entre guillemets.
Ouais, mais en tout cas, je trouve ça super fort, tu vois, justement, d'avoir fait un film sur un girl's crew. Je trouve le boy crew, il est très présent dans le ski, et notamment dans le ski un peu freestyle. Moi, je sais pas, enfin, c'est bête, hein, mais sur les stations, je vois tout de suite la bande de potes, tu vois, que tu vois les montagnards qui ont tous un peu le même look, les super skis... Il y a que des mecs, tu vois, dans ces groupes-là. Et moi, je suis un peu partagé. Tu vois, en ce moment, je suis en plein dans King Kong Theory, tu vois. Donc, je lis, je m'informe beaucoup et tout. Mais une des réflexions que je me pose, c'est est-ce qu'il faut absolument, justement, qu'il y ait toujours, dans tous les contextes, forcément un groupe 100% féminin, tu vois, pour avancer sur un sujet. Et est-ce que, au contraire, en fait, la solution, elle n'est pas dans la mixité et dans le mélange de base, tu vois. Et une fois, j'ai une copine qui m'a beaucoup éclairé, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, qui me disait, mais en fait, dans certains milieux, tu t'en rends pas compte, mais c'est que des groupes d'hommes, et du coup, t'es obligé, pour contrebalancer, de créer un groupe de femmes, justement, pour avoir des réflexions complètement différentes, et la mixité, elle se créera plus tard, tu vois. Un exemple tout assez bête, je pense, c'est peut-être les francs-maçons, tu vois, ou dans les clubs un peu business, tu vois, il y a souvent beaucoup, beaucoup d'hommes, et du coup, bah, y a besoin d'avoir cette sororité, en fait, elle est nécessaire, tu vois. Tu penses que c'est un peu pareil, justement, dans le ski ou même dans le sport de haut niveau, de façon générale ?
Ouais, c'est un vaste sujet. Et je crois que je n'ai pas encore complètement tranché personnellement. Est-ce que la non-mixité ou la mixité choisie est nécessaire dans tous les cas ? Je pense qu'elle est nécessaire dans certains cas. Après, moi, je me suis retrouvée dans des situations où tu vois, je pouvais pas accéder à des événements parce que on avait un gars, un pote dans le groupe, et là je me disais presque oh mais c'est dommage machin, enfin genre bon bref, je crois que j'ai pas encore complètement décidé, enfin j'ai pas encore fixé complètement ma réflexion là-dessus. Par contre, je pense que dans certains cas, c'est sûr que la non mixité est nécessaire, parce que en fait, je pense que au-delà du simple fait du nombre d'hommes, nombre de femmes, les femmes, elles sont sont malheureusement habituées dans beaucoup de situations à toujours être sur le derrière de la scène et que les hommes prennent plus de place dans la prise de parole, la prise de décision. Et ça, ça se retrouve en montagne. Tu vois, dans des groupes de montagne, naturellement, mais même si les femmes sont compétentes, elles vont rarement être devant, elles vont rarement prendre les décisions, c'est rarement celles qui vont le plus ouvrir leur gueule, sans dire ça de manière négative, hein. Enfin je veux dire, et sans jeter l'opprobre sur les hommes, mais genre on a été, je sais pas, c'est une socialisation qui fait que, et au vu de ce constat, mais pareil, hein, le but ultime je pense c'est de pouvoir... de faire en sorte que les femmes puissent prendre le lead, y compris dans des groupes mixtes. Ça, je pense, c'est le but ultime. Mais en attendant que ce soit le cas, ça aide énormément en tant que femme d'être dans des groupes non mixtes, parce que du coup, la prise de lead, elle se fait sur la compétence uniquement et pas sur ton genre. Tu vois, c'est la plus expérimentée, la plus compétente qui va prendre le lead en montagne. Et du coup, et ça, c'est malheureux de le constater, mais c'est encore vrai. Et moi, c'est principalement pour ça que je pense que la non-mixité est importante dans ces cas-là, ouais.
Ok, bah écoute, ça alimente ma réflexion.
Parce qu'encore une fois, je trouve aussi qu'il y a des... Moi, pour moi, le but ultime du féminisme, presque, c'est justement d'arriver à une égalité telle que dans des groupes mixtes, et ben le leadership, si leadership il y a, hein, parce que je suis pas obligé d'avoir un leadership tout le temps, mais il se passe plus sur la compétence, le savoir, l'expérience que le genre. Et tu vois, si c'est un mec, c'est un mec. Si c'est une femme, c'est une femme. Mais que ça se... Enfin, je pense que certaines situations de non-mixité vont être nécessaires pour arriver à là, pour permettre juste aux femmes de prendre l'habitude d'avoir ce rôle-là, de tout faire de A à Z, de prendre les choses en main, En tout cas, en montagne, ça se ressent.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, merci pour ta réponse, en tout cas. C'est quelque chose que tu as envie de continuer, justement. Comment est-ce qu'on va encore plus loin que Recipe en faisant un film avec que des filles? Alors, j'ai regardé dans la boîte de production, on voit quand même à la fin, il y a quand même pas mal de mecs qui bossent sur le projet, hein, mais on les voit pas, mais il y en a en coulisses.
Et pour la petite histoire, je voulais inclure des skieurs. Deux potes. Je trouvais ça assez rigolo aussi, l'idée qu'il y ait deux skieurs, deux hommes parmi un crew de nanas. Et en plus, c'est des très bons amis à moi que j'adore et ça m'aurait fait très plaisir qu'ils soient dans le film. Mais la semaine qu'on avait prévu de shooter ensemble, conditions horribles, du coup, on n'a pas pu sortir aucun shot. Mais voilà, pour la petite histoire, il aurait dû y avoir aussi des hommes dans ce film. Au final, ça ne s'est pas fait à cause de Mère Nature. Mais...
ok, ça marche. Mais ouais, du coup, c'est quoi ton prochain objectif ou le prochain message que tu as envie d'aller faire passer? Comment est-ce que tu veux aller encore plus loin?
Je ne sais pas. Dans le féminisme, je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'ai envie d'aller encore plus loin dans les messages féministes. Tu vois qu'on parlait un peu tout à l'heure du féminisme par les actes. Moi, je crois que je me retrouve pas mal là-dedans aussi. Même sans... Enfin, c'est ultra important de mettre des mots sur les choses et d'aller à fond dans des théories. Mais je ne sais pas si c'est moi ma compétence première. Je pense que ma compétence première, moi, elle est plus de... peut-être de montrer ce que les femmes peuvent faire en montagne, de faire des projets. Et du coup, le futur, bah, j'ai encore envie de travailler avec des femmes en montagne, parce que c'est vraiment quelque chose qui se passe super bien, enfin, qui s'est toujours bien passé. Mais aussi avec des hommes, enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses à apporter dans tous les genres, quoi. Et peut-être d'aller... Ce que j'aimerais plus faire, donc ça sort du féminisme, mais c'est de sortir un peu le monde du ski de sa bulle et d'aller peut-être... rapprocher des projets avec des sujets plus sociaux ou des réalités qu'il y a en montagne qui s'éloignent un peu du ski pur, de la performance pure. Donc voilà, encore à réfléchir. Et du coup, ça sortirait un peu du sujet féministe, entre guillemets. Mais ça sera encore fait par des femmes. Enfin, toi, j'ai envie de encore travailler avec des femmes. Mais...
Ok, bon, bah, très chouette. Je suivrai ça avec beaucoup d'impatience et d'attention, en tout cas. Mais je trouve ça très chouette. Quels sont peut-être les efforts à faire encore dans le monde du ski? Il y a des sports qui avancent très vite, d'autres peut-être un peu moins. Tu vois, je ne sais pas quel est l'état de l'art encore de si on voulait avoir une égalité parfaite, ce qui reste à faire. Je peux te citer les bons exemples, parce que j'aime bien te les dire. Ben, il y a le VTT d'enduro, par exemple, où les prize money sont exactement les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Les médias aussi sont obligés de parler autant d'hommes que des femmes. Donc ceux qui achètent les droits ont aussi un engagement qui est assez fort, finalement. J'aime beaucoup ça. Je sais qu'il y a eu, j'ai eu un long échange avec Olivia Piana sur le wingfoil, parce que comme c'était un sport naissant, il fallait tout créer depuis zéro. et elle avait passé un petit coup de gueule parce que c'était en train de reproduire des schémas, tu vois, un peu patriarcal et d'autres sports, tu vois, aquatiques et nautiques. Et finalement, il y a eu pas mal d'évolutions qui ont été faites, tu vois, mais quelles inégalités il existe encore qu'il va falloir corriger dans les années, mois à venir, et si possible tout de suite.
Ouais, carrément. Pour être honnête, je trouve que ça a déjà quand même pas mal évolué. Toi, nous, les prize money en compétition, ils sont égaux en Coupe du Monde de freestyle. Sur le circuit international de freeride, ils sont égaux depuis 2 ans, si je dis pas de bêtises. C'est récent, mais c'est à l'égalité là. Le nombre de pratiquantes filles...
C'est cool, parce que c'est
oui,
rare.
Oui, carrément. Ouais, ouais. Donc, tu vois, c'est peut-être aussi dans les bons élèves. Le nombre de pratiquantes filles a explosé. Le niveau chez les femmes a explosé. La représentation médiatique, peut-être, en effet. Quoique, moi, c'est biaisé, parce que vu que je suis pas mal de skieuses, j'ai l'impression d'en voir pas mal, mais du coup, c'est peut-être biaisé. Mais la représentation médiatique, en effet, ouais, 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 c'est clair. Peut-être la représentation dans les vidéos. Tu vois, je trouve, dans le milieu de la compète, ça s'est pas mal égalisé. Et en effet, il y a moins de projets féminins où les femmes sont incluses. Il n'y a pas beaucoup aussi de filmeuses et de photographes féminines. Ça, c'est un truc où quand...
Dans les métiers...
Ouais, dans les métiers de la production, appelle à toutes les femmes qui veulent faire ça. Enfin, il y en a peu. Et quand tu veux faire des projets avec une équipe uniquement féminine, et bah, c'est pas évident. Enfin, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Et pareil, de plus en plus, j'ai l'impression. Donc, ça évolue. Franchement, il y a des signes positifs, il y a des signaux positifs dans le respect accordé aux femmes dans notre milieu. Je trouve qu'il est là. Ça pouvait être le cas il y a quelques années où le niveau des nanas était vraiment dénigré. Tu pouvais être considérée juste comme la potiche sur tes skis. Là, c'est plus le cas. Enfin, genre là, c'est plus le cas. Donc, il y a des trucs qui évoluent quand même.
Et à quel point tu vois plus de jeunes filles qui commencent justement à se mettre au freestyle et à découvrir la discipline?
Personnellement, je le vois déjà dans les snowparks. Tu vois, quand tu vas sur un snowpark, là, en ce moment, ces dernières années, il n'y a pas plus que des gars. Et là, ouais, il y a une fille, c'est incroyable. Tu vas lui dire bonjour, lui parler, tellement t'es surprise qu'il y a une autre nana. Là, c'est plus le cas. De ce que j'ai traîné sur les snowparks ces dernières années, peut-être un ratio 25%, allez, 20%, 80%. Mais ce qui paraît peu encore, mais ce qui est énorme comparé à une dizaine d'années, quoi. Donc ça évolue. Dans les compètes, enfin tu vois, en compète, je pense qu'en Coupe du Monde, en freestyle, là, nous, à l'époque, on était 25-30 maximum. Là, je pense qu'sur le circuit Coupe du Monde, là, pour 120 gars, je pense qu'elles sont beaucoup plus, et elles sont beaucoup plus à avoir un niveau très solide. Enfin, du coup, ouais, il y a quand même des bons signaux.
Ok, bon, bah écoute, très très chouette. J'avais une dernière question qui était dis-moi si elle est taboue ou pas, mais est-ce qu'on peut... vivre facilement, tu vois, en faisant que des films et en étant une athlète. On peut, tu vois, avoir, en tout cas, de mon prisme, tu vois, les grosses stars, tu vois, du freeride, du freestyle, certains témoignent, tu vois, ils disent, tu vois, ils annoncent quelques chiffres, ils disent qu'ils en vivent bien. Et quand on voit le nombre de vues qu'ils vont faire sur YouTube ou ce qu'ils apportent à des marques, moi, je trouve ça encore très peu cher payé, hein, tu vois, honnêtement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, c'est facile de pouvoir en vivre et de s'en sortir et de pouvoir créer des projets en tant que femme dans ce milieu-là?
Moi, j'ai envie de te dire oui. Enfin, après, avec
t'as des... réussi, donc toi...
Oui, moi, ouais. Et puis avec des exigences, moi, personnellement, peut-être de financières qui ne sont pas énormes. Enfin, toi, je ne sais pas, moi, ça me va de pas avoir des salaires mirobolants, enfin, même si je me plains pas du tout. Du coup, oui, c'est possible. Et en effet, c'est peut-être un truc à dire aux personnes qui voudraient se lancer dans la vidéo... ou personnes qui font de la compète. Par exemple, moi, ça a été une question que je me suis posée quand j'ai arrêté la compète. C'était j'arrête, ok, mais est-ce que je vais pouvoir continuer à être skieuse professionnelle en faisant que de la vidéo? Je me suis clairement posé la question. Et au final, c'est même plutôt mieux, moi, financièrement, que quand je faisais de la compète. C'est possible. Ouais, ça se construit aussi, tu vois, des partenariats avec les marques qui se construisent. C'est clair qu'au bout de 5 ans de partenariat, bah, t'as un meilleur salaire que les premières années où ça peut être que des produits au début et tout ça. Mais non, c'est possible.
Ils te financent du coup en tant que intermittente du spectacle ou pas du tout? Ça peut être un statut que tu prends?
Je crois pas. Je pense pas que ça puisse être possible et je connais personne qui fait ça parce que intermittent, faut avoir des cachets. Et c'est pas un truc, toi, faut avoir des cachets d'heures. Et c'est pas un truc qui fonctionne dans le milieu des sponsors.
Ouais,
non, moi, je suis auto-entrepreneuse. Et il y en a pas mal. Soit t'es en auto-entreprise, soit tu fais une entreprise personnelle. Alors, je connais moins statut, mais genre, c'est des statuts. Oui, c'est ça.
On va rentrer dans la technique.
C'est pas ça, ça rentre dans la technique, mais moi, je suis en auto-entreprise et ça marche très bien. C'est un statut très simple et ça marche bien pour les sportifs.
Et un film, ça peut te financer toute l'année ?
Indirectement.
En théorie, c'est ce que tu cherches.
Ouais. Oui, mais en fait, toi, t'es pas du tout rémunéré sur un projet de film, mais indirectement, tu vas pouvoir négocier des budgets personnels auprès de tes sponsors parce que tu réalises certains films et que du coup, ça te donne une certaine visibilité. Ouais, c'est tout, hein, c'est indirectement. Nous, on gagne pas de l'argent. Tout l'argent dédié au film, il va pour les frais de production, les salaires des filmeurs, filmeuses, photographes, etc.
D'accord, ouais, c'est une autre enveloppe, un autre budget, quoi. Mais écoute, tu vois, je trouve que c'est important d'en parler parce que ça peut être une crainte. Et tu vois, tu le disais, c'était pour toi. Et je pense que ça peut être une des façons, tu vois, de rassurer et de montrer que c'est possible et que c'est accessible, tu vois. Si des femmes veulent se lancer, c'est possible de le faire, en tout cas.
Oui, complètement, carrément.
Okay. Ouais. Écoute, trop bien. J'arrive un petit peu sur mes questions de la fin. Juste avant, j'ai vu que tu t'étais mis à la slackline. Sur ton compte Instagram, je me suis permis d'aller me balader un petit peu dessus. Comment est-ce que t'es tombé dedans ? Qu'est-ce que t'y trouves en termes de plaisir ? Parce que c'est très très différent, je pense, en termes de sensations avec le ski.
Ouais, c'est clair. Bah alors, comment je suis tombée dedans ? C'est justement une amie skieuse, Chloé, qui est dans le film d'ailleurs, qui fait beaucoup de highline et qui nous avait proposé à 2-3 potes skieuses l'été dernier de venir essayer un setup de highline qu'elle avait posé aux Arcs. Donc je suis allée essayer et j'ai vraiment eu le coup de cœur tout de suite. Enfin, pour moi, c'est un sport vraiment magnifique. Déjà, visuellement, c'est beau. Hein. Enfin, moi, je trouve ça beau. Et ce que ça apporte, bah, ça rejoint un peu ce que ça apporte. Mentalement, c'est assez fou comme sport. Enfin, tu vas vraiment te faire peur tout en étant assez safe. Parce que voilà, ta sécurité, comme dans l'escalade, elle passe par tes manips de cordes, de nœuds. Enfin voilà, tout ça passe par ça. Mais une fois que tu es bien attaché et que l'installation est solide, tu peux pas trop te blesser physiquement. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que dans des sports comme le VTT, le ski et j'en passe. Ouais, mentalement, tu vas vraiment puiser dans des ressources. Enfin, ça fait très peur et les mouvements demandent beaucoup de concentration, de dépasser un peu cette peur du vide. C'est une sorte de méditation, en fait. Enfin, c'est un sport assez méditatif où ça se passe tout dans la tête. Bon, après, il y a le côté un peu technique quand même de réussir à se lever depuis la position assise et des choses comme ça. Mais ça se passe vraiment tout dans la tête et c'est ça qui rend ça si passionnant. Enfin, ouais. Et du coup, bah, j'en ai cet été, je m'y suis pas mal mise et c'est un peu un nouveau coup de cœur. Ouais.
Mais j'avais pris beaucoup de plaisir à interviewer Nathan Paulin, je sais pas si tu vois. Et je me suis demandé, tiens, en voyant tes photos, est-ce que ça épuise mentalement ce genre de sport ? Parce que justement, c'était hyper concentré et tout. Est-ce qu'à la fin d'une line, tu te dis, faut que je me pose ? Ou est-ce qu'au contraire, tu peux repartir tout de suite, tu vois ? Et à la fin de la journée, comment tu te sens ?
Bah, t'as touché un bon point. Enfin, ça épuise énormément. Et d'autant plus au début. Enfin, moi, tu vois, au début, l'été dernier, mes premières sessions, je faisais, ça va paraître fou, hein, je faisais 2 sessions de 20 minutes par jour. Et le soir, j'étais fatiguée, mais plus que des journées de ski de rando où t'as crapahuté pendant 8 heures dans la montagne, quoi. Non, ça épuise. Ça demande vraiment d'aller chercher dans tes ressources mentales. L'épuisement, il disparaît au fur et à mesure que t'es en confiance, que tu as de moins en moins peur, que tu t'apprivoises un peu l'élément, l'épuisement il disparaît, mais quand même, si, ça en demande beaucoup, ça, physiquement aussi, hein, du moment que tu arrives à te lever et que tu veux essayer de tenir un peu, de marcher un petit peu longtemps, enfin moi j'en suis encore à mes premiers pas et tout, mais ça demande du gainage, ça demande de la concentration technique aussi, enfin, et du coup, ouais, ça paraît pas, de l'extérieur, c'est pas fou visuellement comme effort, tu vois, marcher sur une ligne, tu te dis pas, ouais. Mais ça, ouais, si, ça demande beaucoup physiquement et mentalement, je trouve.
Ok. Dans les petites questions de la fin, j'aime bien demander quel est le dernier film qui t'a inspiré ou qui t'a beaucoup plu ou qui pourrait d'ailleurs être une source d'inspiration pour toi pour un futur projet.
C'est marrant parce que j'ai regardé dans le train en venant à Paris, là. C'est un film qui n'est pas encore sorti, alors j'ai eu la chance d'avoir le lien, mais de Elisabeth Gerritsen, une autre skieuse suisse, et Alicia Sensi, qui est la réalisatrice. Ça s'appelle Fragments choisis, et c'est un peu sur le parcours d'Elisabeth, la manière dont elle vit sa vie de skieuse, où elle parle pas mal des... Parce qu'elle, elle est alors pour le coup, militante féministe. Elle a fait son coming out récemment et tout. Et du coup, elle parle un peu de toutes les contradictions autour de ça, entre le milieu du ski, qui est pas très avancé sur ces sujets-là. Elle, ses convictions profondes, comment elle arrive à un peu mélanger tout ça. Enfin, et ultra inspirant, vraiment un beau film. Enfin, du coup, j'ai eu un petit coup de cœur en regardant le film, ouais.
Ok. Tu lis un peu ?
Ouais, j'adore lire, en vrai.
C'est vrai ?
Ouais.
Eh ben, si tu pouvais offrir un livre à tous les habitants de la planète pour qu'ils soient un petit peu plus heureux, un petit peu plus conscients ou pour qu'on apprenne à vivre un petit peu mieux ensemble, qu'est-ce que tu choisirais de leur offrir ?
Ouah, c'est dur comme question. Je sais pas. J'en ai un dans la tête, là, mais je sais pas pourquoi j'ai celui-là dans la tête. C'est No Home de Nyan Gassi. Une autrice, c'est une histoire sur plusieurs générations de deux sœurs qui sont dans un pays d'Afrique où il y avait des colons esclavagistes et qui vont se retrouver déportées aux États-Unis. Et c'est un peu toute l'histoire de l'esclavagisme à travers ce livre. Et tu suis plusieurs générations de la génération qui est partie du pays. Je crois que c'était le Sénégal, mais je ne suis pas sûre. Et à ceux qui ont grandi aux US sous le joug de l'esclavagisme. Mais je ne sais pas pourquoi je pense à lui, tu vois, c'est complètement hors sujet.
Bah sinon, non, ça crée ouais. L'empathie, ça rappelle notre histoire et peut-être les horreurs qu'on a faites, ouais. Qu'il faut pas reproduire, quoi.
Oui, complètement, carrément, et j'aime beaucoup les livres qui sont des fictions, mais qui t'éclairent un peu sur des sujets historiques, ou je trouve que c'est une manière chouette d'apprendre des choses et de s'ouvrir un peu sur d'autres sujets que, bah, tu vois, à travers autant je regarde beaucoup de films de ski, de montagne, pour m'inspirer et tout, les livres, j'aime bien sortir du milieu sportif, pour justement garder une sorte de pied sur d'autres sujets. J'aime bien. Pour moi, les livres, tu vois, je lis peu de livres sportifs ou de montagne et je garde ça pour les films. D'accord. Et du coup, ouais.
Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a déjà tellement tant à faire sur les films. Il y en a plein de bien. D'ailleurs, si tu devais m'en recommander un, tu vois, un film de ski qu'il faut absolument voir, peut-être pour les non-initiés qui ne sont pas fans de sport extrême, tu vois, si on avait un qu'il fallait regarder, peut-être que ça serait lequel qui te viendrait à l'esprit ?
Eh ben, celui qui me viendrait à l'esprit, c'est Zabardast, qui a été fait par Picture, la marque avec qui je bosse. Bon, c'est pas pour ça que je le cite, mais c'est un film où il y a deux skieurs, de Léo Taillefer et Thomas Delfino, donc d'ailleurs Thomas est snowboarder, qui vont faire une face au Pakistan. Et le film est très très humain, très très bien réalisé par Jérôme Tanon, un photographe réalisateur de snowboard. Ouais, peut-être j'en dis pas plus, mais c'est un film où on rigole, des fois on a les larmes aux yeux, on se prend au jeu, on a peur pour eux. Enfin, humainement, ils ont réussi à retranscrire des vraies émotions, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films de montagne, où des fois, c'est un peu plus « allez, on y va », et on ne parle pas forcément des doutes, des peurs. Et là, ils l'ont fait d'une très belle manière. Les images sont magnifiques, l'exploit est magnifique. Et du coup, ouais, je dirais Zabardast. Ouais.
Ok, trop bien. Bah, écoute, merci infiniment pour la reco. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur dans la vie ?
Ah bah oui, beaucoup.
C'est quoi ?
Le truc qui me fait le plus peur, c'est peut-être de pas réussir à trouver les choses qui me correspondent en fonction de, enfin, tu vois, de m'éloigner un peu des choses que j'ai vraiment envie de faire, des fois sans le vouloir, sans le savoir, pardon. Et ouais.
De te désaligner, donc, peut-être.
Oui, voilà. Ouais. Je pense que c'est pas une très bonne réponse.
Mais... Non, mais il y a jamais de mauvaise réponse ou de bonne réponse, tu vois. On a chacun nos peurs, chacun nos névroses, chacun nos craintes, nos croyances, tu vois. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais c'est très intéressant. Effectivement, la peur de se désaligner, c'est une réflexion que peu de gens ont, mais qui est fondamentale, je pense, tu vois, au bonheur et à son équilibre perso. Donc trop bien. Que disent tes meilleurs amis de toi ? Si je les appelle et que je leur demande...
Faut que tu les appelles.
Trois qualités.
Je sais pas, peut-être... Je suis assez joviale, enfin assez joyeuse comme personne. Et
Je confirme.
Ouais, ça, la motivation, le partage, enfin je sais pas, j'espère, en tout cas.
Très bien, je les appellerai. Mais du coup, j'en arrive à ma dernière question, en parlant d'amis. Est-ce que tu me recommandes une athlète et un athlète... Que ça pourrait être vraiment génial d'aller interviewer parce que soit ils ont une histoire exceptionnelle, soit ils font des projets exceptionnels ou tout simplement parce que c'est des gens sympas et que tu me recommandes d'aller passer une heure et demie avec eux.
Oh, là aussi, il y en a vraiment beaucoup. Peut-être chez les hommes, je dirais Matt Scher, qui est un athlète, c'est un snowboarder suisse. Et je pense à Matt parce que lui, c'est vraiment quelqu'un qui a une approche très, quelqu'un de très engagé au niveau environnemental. Et c'est, pour moi, c'est un des athlètes qui aligne le plus son mode de vie et son mode de fonctionnement à ce qu'il défend. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui se déplace vraiment qu'en train, et qui a un discours très construit là-dessus. Enfin, bref, Matt Scher est quelqu'un, et qui est pas forcément sous les radars médiatiques comparé à des Xavier Delerue ou des gros noms du snowboard. Du coup, ouais, je pense à Matt. Voilà, chez les femmes...
Tu devrais en avoir plein.
Ouais, c'est ça, il y en a vraiment beaucoup. Je te cite Elisabeth parce que je la connais pas beaucoup, mais parce que j'ai vu son film récemment et qu'il m'a touchée. Bah, Juliette Wilman, avec qui j'ai filmé pas mal, elle a beaucoup de choses à dire. Malgré son jeune âge, elle a une grosse expérience en montagne. Elle a déjà vécu les choses dures en montagne. Elle a des grosses compétences, donc elle a beaucoup de choses à dire aussi. Je suis très amie avec Marion Herty aussi, qui fait du snowboard et qui a été 4 ou 5 fois, je ne sais plus, championne du monde de freeride.
5, je crois.
qui a une personnalité très touchante et qui aurait beaucoup de choses à dire aussi sur plein de sujets autres que le snowboard. Ouais.
Mais je ne savais pas que vous étiez amies, parce que sur la question justement des peurs et du désalignement, j'ai pensé à elle parce qu'elle a eu une réponse assez similaire.
Ah ok, c'est drôle.
De se décentrer de qui elle est vraiment et de faire les choses par obligation plutôt que par désir. Bon bah cool, c'était une très belle interview également. Merci infiniment Colline, je me suis régalé.
Bah, merci à toi.
De pouvoir décortiquer un petit peu un film et à la fois de regarder la partie des valeurs, des motivations et aussi de voir de la partie un petit peu plus logistique. Moi, en tout cas, moi ça m'intéresse beaucoup, donc j'espère que, et je pense que ça plaira aussi aux auditeurs. Donc j'ai passé un très bon moment. Et
mais moi aussi, merci à toi.
Je te remercie infiniment. Et je crois qu'on dit en montagne que à très vite, parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas.
Complètement. Voilà. Merci beaucoup.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !